Bonjour et bienvenue dans la série de balado Rencontres. LaSelf a développé cette série pour permettre à des gens qui ne se connaissent pas de discuter d'un sujet qui les unit. Dans cet épisode, vous serez témoin de la rencontre entre Yasmine, qui a immigré en Ontario à l'âge de 7 ans, et Marie-Claire, enseignante en classe d'accueil au Nouveau-Brunswick. Bonne écoute!
Bonjour Marie-Claire.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va très bien, toi? Est-ce qu'on se vous voit ou se tutoie?
On peut se tutoyer si c'est plus
Parfait.
Facile.
Parfait. Oui, merci.
Excellent. Alors, on ne se connaît pas du tout. C'est la première fois qu'on se rencontre virtuellement. Puis, c'est un bel exercice auquel on va se livrer aujourd'hui. Alors, on va se partager nos parcours, partager nos expériences. Toi qui es intervenante en classe d'accueil, puis moi qui ai vécu l'expérience justement de l'immigration moi-même. Puis je pense que ça va donner une très, très belle conversation. Mais avant qu'on plonge là-dedans, juste prendre le temps de se présenter l'une et l'autre. Alors, moi, c'est Yasmine, je suis originaire de Tunisie. Ça fait 13 ans que j'habite le Canada maintenant. Donc, en fait, j'ai passé la majeure partie de ma vie ici au Canada que j'ai vécu en Tunisie, puisque j'ai 20 ans. J'entame mes études à la faculté de médecine de l'Université d'Ottawa. Donc, c'est ça un petit peu mon background. Puis, je viens tout juste de graduer avec mon baccalauréat en sciences. Et toi?
Parfait. Alors, moi, c'est Marie-Claire. Je suis enseignante de français langue additionnelle. On appelle ça ici classe d'accueil, mais chez nous, c'est vraiment plutôt français langue additionnelle à l'École Sainte-Anne, à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Ça fait peut-être 6 ans que j'ai ce cours. Puis, c'est un cours avec des élèves de la 9e à la 12e année qui viennent un peu partout, que ce soit en Amérique centrale, à l'Amérique du Sud, en Afrique, des pays arabes aussi, alors un peu partout.
OK, et ça fait longtemps que tu es dans ce domaine-là, que tu encadres ce genre d'élèves?
Depuis 2017.
D'accord, ça fait quand même un petit bout. Okay.
Oui, puis nous aussi à Fredericton, c'est un environnement en milieu minoritaire, donc la langue de la ville vraiment c'est en anglais, donc on n'a pas énormément d'élèves qui choisissent de nouveaux arrivants qui vont choisir s'installer en français, ils vont plutôt prendre le système anglophone, mais on en a de plus en plus.
D'accord, ben c'est une bonne chose parce que
Absolument.
Je trouve que, surtout quand on est immigrant, le fait d'appartenir à une communauté francophone, je pense que ça facilite tellement l'intégration. Ça a été mon cas quand je suis arrivée ici. Donc, moi, ma mère est professeure de langue française. Donc, on a toujours parlé français à la maison en même temps qu'on parlait arabe. Donc, moi, ça a été quasi spontané lorsqu'on est arrivé ici de choisir l'école publique de langue française. Et je pense que ça a beaucoup facilité mon parcours d'intégration, que c'est savoir que je fais maintenant partie d'une communauté qui a une certaine connotation politique également à ce que je peux faire dans cette communauté. Puis je pense que ça a forgé un petit peu la voie que j'ai décidé de prendre depuis. Donc, c'est vraiment bon à savoir qu'il y a quand même des personnes qui choisissent le système de langue française.
Oui, oui. Alors, tu avais 13 ans, si j'ai bien compris, lorsque tu es arrivé au Canada, ou ça fait 13 ans?
Ça fait 13 ans, c'est ça.
OK.
Ça fait
donc, 13 ans. 7 ans.
Exactement. Ben, j'ai commencé à l'école primaire. Je suis arrivée vers la moitié de mon école primaire. Puis, ce qui était très intéressant, c'est que l'école que je fréquentais en Tunisie donnait des cours de français, d'anglais et d'arabe. Donc, je n'avais pas nécessairement la barrière linguistique à mon arrivée. Donc, ça a vraiment facilité le processus, mais je peux comprendre, j'imagine que vous avez rencontré des élèves qui avaient cette barrière linguistique-là. Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça change? Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus compliquées quand l'élève arrive et ne peut pas parler la langue?
Ah, ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup. Justement, aujourd'hui, puisque c'était le dernier cours, parce que l'été commence tout peu, là, on a eu une discussion pour finaliser, boucler l'année, puis je leur ai demandé, parce que les élèves, les nouveaux arrivants, j'ai remarqué qu'ils ont tissé beaucoup de liens entre eux, mais ils ne sont pas à 100% très intégrés dans la population étudiante comme telle, alors avec les élèves qui ne sont pas issus de l'immigration. Puis, ils m'ont dit que c'était très difficile de se faire des amis avec des gens qui ne sont pas d'ailleurs. Alors, puis je leur ai demandé le pourquoi. Puis, chez nous, dans nos corridors, les élèves s'expriment un peu en anglais. Donc, ils ont dit aussi, ils s'expriment plutôt en anglais qu'en français. Puis, ils m'ont dit, parce qu'on ne parle pas Parce que là, maintenant, j'ai des élèves, bien évidemment, qui peuvent parler en français là, pour avoir cette discussion aussi. Là. Mais ils m'ont dit qu'au début, on ne parlait ni français ni anglais. Et maintenant, on apprend le français à l'école, puis on doit apprendre l'anglais pour un peu survivre. Alors, c'est un peu difficile puisqu'on est en train d'apprendre deux langues en même temps pour tisser des amitiés aussi. Et c'est certain que le vécu, comme un élève qui nous arrive de la Syrie à 13 ans ou à 14 ans versus quelqu'un qui, comme toi, qui est arrivé à 7 ans, donc juste les activités à être nouvel arrivant comme adolescent puis être un nouvel arrivant comme jeune enfant, ça peut aussi changer son parcours puis son intégration aussi.
Certainement. Puis il y a quelque chose qui est de plus en plus public. C'est une discussion qu'on est en train d'avoir beaucoup plus. Je vois dans les organismes jeunesse, quand je vois la FJCR, la Fédération de la jeunesse canadienne-française, quand je vois la FESFO, la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne, puis c'est la question de la sécurité linguistique. Et je pense qu'au-delà des personnes qui sont nées ici et qui ont des accents locaux et qui parlent avec certains régionalismes, évidemment, ont un français qui a une aussi grande valeur que le français plus standard. C'est aussi un standard qu'on peut certainement appliquer aux populations immigrantes. Quand un élève, peut-être pas le français, ne parle peut-être pas le français au même niveau que ses collègues, ça peut certainement le rendre un peu plus réticent de faire partie de l'école et de la communauté scolaire. Donc, c'est certain que cette discussion sur la sécurité linguistique peut certainement bénéficier à tout le processus d'intégration et d'inclusion des élèves issus de l'immigration.
100% d'accord, même
Oui.
comme adulte aussi.
Certainement, certainement. Puis j'ai vu ça dans tout au long de mon parcours parce que j'ai également fait mon école secondaire ici. Puis on voit des élèves on dirait plus on vieillit, plus c'est difficile d'intégrer le système quand on est immigrant. Donc c'est super important de laisser la place à tous les types de français, toutes les sortes de français, toutes les sortes d'accents. Et ça fait que renforcer notre communauté franco-ontarienne, franco-canadienne,
Oui,
je
oui,
vais
oui,
dire.
oui, oui. Quelque chose que je remarque aussi, c'est que certains de nos élèves ne connaissent pas ou ont, si je peux dire, un choc de culture quant à le système scolaire, puis quant aux activités parascolaires, puis de savoir qu'on peut s'impliquer dans des comités, puis que des clubs existent, puis que des sports existent. Alors nous, on a une équipe de rugby, puis c'est la première année où on a des élèves nouveaux arrivants qui ont porté le hijab aussi, qui ont joué au rugby aussi. Alors on commence à avoir un peu plus d'activités parascolaires où nos élèves issus d'immigration participent. Et c'est un beau modèle pour les années à venir aussi. Donc, ces élèves qui sont membres des équipes sportives, je remarque une plus grosse intégration, une intégration beaucoup plus facile, puis une certaine sécurité linguistique aussi, parce qu'ils ont la chance à tisser des liens, mais c'est aussi une confiance en soi avec toute
Certainement.
l'expérience derrière.
C'est très positif parce que je me réfère souvent à mon parcours scolaire parce que j'ai passé la majeure partie de ma vie à l'école, vu mon jeune âge. Mais je vois certainement que l'école, c'est beaucoup plus que juste la salle de classe, c'est beaucoup plus que tout simplement le côté académique, tout le côté parascolaire, tout le côté bénévolat, équipe sportive, club, comité. Ça rajoute tellement au cheminement d'une personne, au cheminement d'un élève. C'est quasiment tout aussi important que la composante académique de l'école. Donc, si on permet aux jeunes issus de l'immigration de s'inclure dans ces activités-là, ça leur donne quand même un background comparable aux autres, puis ça les place dans une position de succès pour le reste de leur vie, pour le reste de leur carrière. Et ça facilite justement leur engagement au sein de cette communauté qui est relativement plus difficile quand on se retrouve dans une communauté linguistique en contexte minoritaire.
Absolument, absolument. Et aussi d'avoir des modèles pour les jeunes élèves aussi, de voir que, ah, cet élève-là est issu d'immigration, elle a un parcours semblable que moi, puis elle s'implique dans tel ou tel comité ou dans tel ou tel sport aussi. Puis c'est important aussi que nos élèves qui non issus d'immigration soient ouverts et tentent d'aller vers l'autre aussi. Alors nous, dans le conseil, je suis aussi monitrice du conseil des élèves, puis on a un rôle de vice-présidente socioculturelle, donc par rapport à la diversité culturelle de notre école, et aussi un autre qui est vice-présidente ou vice-présidence mieux-être, donc qui s'occupe un peu de l'inclusion,
D'accord.
de tout nos élèves, que ce soit un élève à besoins spéciaux, à un nouvel arrivant, à la communauté LGBTQ+, etc.
D'accord. Mais ça, c'est une très, très belle initiative. Même à l'école que je fréquentais, on avait des élèves mentors comme ça, qui eux-mêmes sont issus de l'immigration, puis qui sont chargés d'accueillir des nouveaux arrivants. Donc, ça permet d'intégrer, puis de bien accueillir et d'inclure, mais en même temps d'être une personne dans laquelle peut se voir la personne qui vient d'arriver. Donc, ça peut certainement être rassurant de ce côté-là.
Pour changer un peu le sujet, est-ce que tu parles toujours arabe?
Certainement, je parle toujours arabe à la maison et français
OK.
et puis un peu plus anglais avec mes amis puis dans le milieu professionnel. Puis moi, personnellement, j'ai la chance de vivre dans un milieu relatif assez équilibré dans le sens où je choisis de poursuivre toutes mes études postsecondaires en français, que ce soit mon baccalauréat et mon doctorat en médecine. Puis j'ai la chance de travailler dans un environnement assez bilingue. Ce qui fait de sorte que je peux me permettre de parler arabe à la maison pour pas perdre cette partie de mon identité. Et c'est quelque chose qui semble être assez commune chez plusieurs personnes issues de l'immigration, cette volonté de vivre dans une sorte de dualité identitaire, d'absorber ce nouvel environnement, de se livrer à cette nouvelle communauté, mais en même temps d'essayer de garder cette partie de soi qui est composée de notre culture d'origine, en fait. Est-ce que
Qui
c'est
est
la même
très
chose pour tes
importante.
élèves?
Oui, absolument. Puis c'est très, très, très important aussi. Je veux aucunement que mes élèves perdent leur culture d'origine. Alors, on tente de faire de la promotion aussi, mais c'est primordial. Mais c'est intéressant aussi parce que là, on commence à voir, disons, de deuxième ou troisième génération, comme si jamais tu as des enfants, est-ce que tes enfants vont parler arabe, etc., etc. Donc, juste ce processus-là, je suis curieuse de voir. Et où est-ce que vous allez continuer de choisir l'école francophone. Alors, c'est des belles années, des belles découvertes.
Certainement, certainement. Moi, j'aimerais ça que si je décide d'avoir des enfants, ce sera l'école francophone, c'est certain,
Oui.
parce que j'y crois profondément, là. Mais c'est certain que ça prend du temps
Oui.
d'être confortable avec cette capacité d'appartenir à différentes communautés, d'accepter une sorte d'intersectionnalité des cultures et de pouvoir se dire franco-ontarien, de pouvoir se dire canadien, de pouvoir se dire tunisienne, de pouvoir se dire arabe, de pouvoir se dire plusieurs choses sans que l'un empêche l'autre. Et je pense que c'est un travail sur soi qui prend plusieurs années. T'sais, moi, j'arrive à dire ça après 13 ans, mais il y a des gens que ça prend moins de temps, des gens que ça prend beaucoup plus de temps. Puis c'est certain qu'en tant que communauté, on doit s'adapter au temps que ça prend pour certaines personnes pour totalement appartenir à nos communautés.
Oui. Est-ce important d'intégrer les parents? Est-ce que tes parents est-ce que tu te souviens si tes parents étaient impliqués dans ton cheminement scolaire, soit à l'école, est-ce qu'ils participaient aux rencontres parents-mères? Parce que tes parents avaient la langue, n'est-ce pas?
Exactement,
C'est ça.
mes parents parlaient la langue, donc ils la parlent encore. Là, je ne sais pas
Oui,
pourquoi je parle au passé.
oui,
Donc,
oui,
mes
oui,
parents parlent la langue. Et je pense que c'est certain que ça facilite le parcours. Et puis, je pense que dès notre arrivée ici, il y avait aussi un discours très inclusif qui nous poussait vers la communauté francophone qui se tenait à la maison. Et je pense que c'est ce discours, cette ambition qui a forgé la personne que je suis, puis qui fait de sorte que je me sens tout à fait confortable à être issue de l'immigration, d'avoir un background arabe, de parler arabe à la maison et de me dire franco-ontarienne. Je pense que c'est cette dynamique qu'il y a chez nous qui est très, très importante, qui vient justement la culture qu'il y a à la maison, le fait que ma mère était prof de français. Donc, c'est quand même des choses qui sont imbriquées dans notre famille. Ma sœur a récemment été élue à la présidence de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne. Donc, c'est clairement une affaire de famille, là, être impliquée en francophonie.
Oui, parce que je sais qu'il y a certaines cultures où c'est qu'est-ce qui se passe à l'école reste à l'école, puis qu'est-ce qui se passe à la maison. Donc, c'est à l'école à gérer. Donc, ce fameux triangle élève-parent-école n'existe pas dans certaines cultures. Puis, chez nous, si nos parents n'ont pas la langue française et ou anglaise, parce qu'on a des parents qui nous arrivent d'ailleurs aussi, alors c'est un peu plus difficile de les intégrer dans le processus. On a les interprètes toutefois, et ça l'aide énormément. Alors, le système scolaire francophone au Nouveau-Brunswick change un peu parce qu'on réalise cette importance de mieux accompagner les parents aussi.
Certainement. Puis il faut dire que chaque personne a un parcours qui lui est tout à fait singulier, qui lui est tout à fait propre. Parce que je veux dire, moi, je parle, je suis surtout en contact avec, quand je dis personnes issues de communautés immigrantes, je connais énormément de personnes qui sont d'origine arabe également. Puis ne serait-ce que le sens dans lequel on écrit varie d'une langue à l'autre. Donc, quand on parle de quel côté on commence par écrire, c'est déjà une source de confusion pour les personnes qui viennent ici. Alors, je peux seulement imaginer quand il y a la barrière de la langue, puis quand il y a la barrière de la culture. Donc, je peux certainement comprendre les défis, puis les problèmes qui peuvent se poser. D'où l'importance d'avoir des enseignantes comme vous qui sont spécialisées dans le domaine pour faciliter justement ce travail sur soi, et ce travail de toute la communauté, en fait.
Quand tu dis barrière de la culture, as-tu des souvenirs de différences ou de barrières comme telles? Comme pour toi, qu'est-ce que ça veut dire la barrière de la culture versus barrière linguistique?
Pour moi, la barrière culturelle, ce serait des traditions qui diffèrent d'un pays à l'autre. Parfois, on tend à fusionner culture et religion, donc ne serait-ce que les convictions religieuses, les différentes fêtes religieuses qui sont célébrées ici et pas là-bas, et vice-versa. Donc, je dirais que c'est plus les habitudes, les traditions qui diffèrent, auxquelles il a fallu s'habituer. Et je pense que c'est un processus qui peut très bien se faire si les communautés migrantes, comme elles le font aujourd'hui, sont très ouvertes à la différence et sont très ouvertes à continuer à vivre leur culture tout en embrassant celles qui les entourent. Et je pense que la communauté franco-ontarienne fait aussi un très bon travail à continuer à garder, évidemment, sa culture, ses balises, tout en s'ouvrant autrui. Donc, c'est certainement un travail des deux bords qui doit être fait. Et ça commence, c'est certain, dans le milieu scolaire quand on parle de jeunes enfants ou d'adolescents.
Très vrai. Non, c'est
Certainement.
très, très, très bien dit. Oui. Est-ce que des fois c'est un peu déstabilisant toutefois parce que c'est quand même très, c'est des valeurs personnelles, culturelles, dans un environnement qui n'est pas la nôtre, mais on sait que c'est peut-être que le Canada est peut-être un pays plus inclusif qu'un autre pays. Alors, ça doit quand même pas être facile d'accepter cela, un
J'imagine,
déséquilibre.
certainement, c'est pas tâche facile, mais je pense quand même que c'est un parcours par lequel il faut passer, c'est une voie par laquelle il faut passer, que de savoir garder ses propres convictions, ses propres traditions, tout en essayant de les vivre conjointement, à la communauté qui nous entoure. Donc, c'est certainement un travail acharné, très, très, très difficile à faire sur soi. Mais je pense que c'est ce qui fait un petit peu la beauté du Canada, c'est qu'on est tous capables d'être différents, mais on est tous capables de s'unir derrière des valeurs qui nous sont communes. Au niveau de la francophonie, on est capable de s'unir autour d'une langue qui nous est commune. Et je pense que c'est quelque chose de très précieux. C'est pas quelque chose de facile, mais lorsqu'on atteint ce bel équilibre entre le vivre ensemble et des valeurs rassembleurs et des valeurs rassembleuses, et qu'on arrive à garder notre singularité individuelle, c'est certain que je veux dire, c'est un très bel objectif à avoir en tête.
Je suis d'accord, je suis d'accord. On le voit en ce moment parce que c'est juin, qui est le mois de la fierté, et je vois un peu ce cheminement, cette ouverture à l'autre, mais cette réflexion. Puis, pour certains, ils sont peut-être un peu déstabilisés avec les activités parascolaires ou les discussions qu'on peut avoir, mais je vois un beau cheminement. Je trouve
Certainement,
ça.
certainement. Puis je pense que toute personne issue de l'immigration passe par là, et puis que de s'adapter à de s'ajuster, de s'assurer de pouvoir vivre en appartenant à différentes communautés en même temps sans que l'un empêche l'autre. C'était un plaisir de jaser aujourd'hui. C'est une très, très belle discussion.
Et on
Puis
pourrait continuer, j'adore.
certainement, certainement. Ben, je suis sûre qu'on va se reparler après ce podcast ici parce que j'ai tellement à apprendre de toi que 20 minutes ne suffiraient pas.
Et vice-versa. Puis de toute façon, je me cherche un docteur un jour, donc
Parfait.
bonne chance dans tes études.
Merci beaucoup.
Merci à toi.